La malveillance, l'acharnement, l'humiliation, le mépris, les égos hypertrophiés et le sentiment de surpuissance, voilà le visage grimaçant de la Ligue du LOL, un groupe de jeunes gens cool qui s'est révélé en fait sexiste, raciste, homophobe, antisémite et grossophobe et qui a sévi pendant 10 ans sur Internet. Bienvenue dans cet épisode spécial de Quad Meuf pour en parler. On est avec Daria Marx, blogueuse, activiste et co-autrice de Gros n'est pas un gros mot. Salut.
Salut.
Nora Boisouni, journaliste et co-animatrice du podcast Plan Culinaire.
Salut.
Et Léa Lejeune, journaliste économique à Challenge et présidente de l'association de femmes journalistes Prenons la Une, dont je fais aussi partie.
Salut Clem.
Bienvenue. Alors pour moi, c'était important de parler de ça avec vous. Déjà parce qu'on se connaît en dehors de ce podcast et aussi parce que j'ai l'impression qu'on a tout un peu vécu dans la peur quand même depuis 10 ans. Et que voilà, voir cette histoire sortir dans la presse, ça a créé un peu chez tout le monde un effet de sidération. Alors pour rappeler les faits, vendredi 8 février, le site Check News chez Libération a révélé un système de harcèlement groupé de journalistes et communicants sur Twitter via un groupe Facebook privé qu'ils avaient créé, donc appelé la Ligue du LOL. Ce harcèlement se faisait à l'encontre de femmes, de personnes LGBT, racisées, et c'était un groupe créé par le journaliste de Libération Vincent Glade en 2009. Depuis, un certain nombre de ces personnes ont été soit mises à pied, soit ont démissionné, et ça continue encore au moment où on parle. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'au sein même de la société de production qui produit ce podcast, donc Nouvelles Écoutes, il y avait aussi un membre de la Ligue du LOL, Guillaume Alissem, qui faisait l'émission Bouffon. Et pendant le week-end, la direction a mesuré l'ampleur du phénomène et a terminé sa collaboration avec lui. Voilà, ça c'est dit. Au-delà de l'aspect qui, pour les personnes extérieures, a l'air peut-être puéril et incompréhensible, c'est quand même un genre de pratique qu'on doit à des personnes adultes, qui étaient donc souvent journalistes. Et je trouve que c'est une bonne occasion de parler de misogynie institutionnelle et des mécanismes qui ont permis à cette situation de perdurer dans des contextes à la fois privés et professionnels, en toute impunité, pendant très longtemps. Et donc, puisqu'on parle depuis MeToo d'une libération de la parole, il serait aussi temps qu'on parle d'une libération de l'écoute. Et donc, voilà, je pense que c'est bien de donner la parole aux concernés. Et je sais, par ailleurs, que ça peut être assez traumatisant aussi pour des victimes de re-raconter leur agression. Et donc, je me demandais comment vous aviez vécu ces derniers jours et est-ce que ça va ?
Moi ça va, je crois que j'ai beaucoup somatisé, puis là je suis encore malade, je parle du nez, j'ai le nez bouché, je dors pas beaucoup depuis la sortie de l'article et en fait c'est vrai que raconter 6 fois de suite ce qui nous est arrivé, c'est quand même pas quelque chose que tout le monde va vivre dans sa vie, enfin je le souhaite à personne. Et il y a aussi, alors moi ce que j'ai vécu hier par exemple, c'est que ça faisait quand même déjà 6 interviews depuis le week-end, 6 ou 7 interviews, pardon. Et en fait, je me suis rappelé des choses en parlant avec une des journalistes. Tout à coup, il y a des choses qui sont revenues, en fait. Des mots, des gestes, des actes, des choses. Je me suis dit, ah putain, mais il y avait ça aussi, en fait. Ah, mais attends, mais il y avait ça aussi, en fait. Et du coup, je suis retournée dans ma boîte mail et j'ai retrouvé quelques mails de certains de la Ligue du LOL, dont un... je ne dirais pas qui, mais un qui m'envoie un mail auquel je n'ai jamais répondu. C'était en 2011, évidemment. Je n'ai pas répondu, évidemment, parce que je ne sais pas quoi répondre à ça. Où il m'avait répondu... il m'avait envoyé un mail lui-même. Je n'avais pas du tout envoyé quelque chose. Il m'avait envoyé quelque chose qui disait « Quant au Photoshop que j'ai fait de toi avec bon, une personnalité politique, je comprends que ça ne te fasse pas rire. D'ailleurs, ce n'était pas le but. » Et ça résonne en fait avec ce qu'ils nous balancent sur...
C'est très clair.
Voilà, ça a résonné vachement en moi hier sur tout ce qu'ils nous ont dit, leurs fausses excuses de c'était pour rigoler et tout. Bah non, parce qu'en fait, le mec te dit que c'était pas pour te faire rire toi, donc c'est pour rire à tes dépens.
Ok. Et vous ?
Moi, ça va. C'est compliqué, parce que c'est des choses auxquelles j'avais pas pensé depuis longtemps. J'ai bloqué tous ces gens et ma stratégie pendant des années, ça a été de les bloquer et de surtout ne pas répondre. Parce que je savais que si je répondais, je remettais 10 balles dans la machine et que ça allait repartir. Donc il fallait ignorer. Malheureusement, bah, y a toujours quelqu'un pour te faire des copies d'écran, pour te prévenir quand tu deviens le sujet. Et puis y a le problème de l'addict du LOL, c'est qu'il y avait ces quelques personnes, et puis il y avait aussi tout ce que ça drainait derrière. Parce que si la Ligue du LOL, un membre de la Ligue du LOL faisait un tweet, ben, il y avait 500 personnes derrière qui trouvaient ça très drôle et qui venaient te harceler derrière. Et ça, c'était dur. Donc ça va, mais comme Nora, des retours de souvenirs, des retours d'humiliation, le sentiment étrange d'être à nouveau en danger, parce que ça, c'est... On a parlé, et en fait, ce qui est très
dur. On attire l'attention aussi, de fait.
On attire l'attention. Donc, d'habitude, quand on attire l'attention sur nous, on était sûr de se prendre du harcèlement derrière. Donc, moi, je vis là depuis 2-3 jours en me disant, OK, quand est-ce que ça va arriver ?
Ouais, à un moment, ça va revenir. Ouais.
À un moment, je vais me prendre quelque chose dans la gueule. Sentiment d'être en danger. Et aussi, sentiment d'injustice totale qui me fait vriller de me dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on nous a écoutés alors que toutes ces putains d'années, on a dit ces mecs nous harcèlent, ces mecs sont méchants et ces mecs nous font du mal. Pourquoi maintenant seulement? Alors on peut s'en réjouir, on peut dire ah génial, enfin on écoute les femmes.
Mieux vaut tard que jamais.
Mieux vaut tard que jamais. Ok, ils sont où nous, nos 10 ans de mal en fait? Qui paye pour ça?
Je veux juste rebondir sur ce que tu as dit avant de dire comment je me sens. Moi, je pense que c'est un peu lié à MeToo, en fait, à la prise de parole des femmes, à la libération de la parole des femmes, mais surtout que maintenant, en fait, on les écoute. Et aussi, je pense qu'une partie d'entre eux, finalement, s'était un peu rendu compte des conneries qu'ils avaient faites. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont pas nié. Parce que dans le premier papier, leur défense aurait pu être de nier.
Donc le papier de libération.
Le papier de libération écrit par Robin Andrarka, ils auraient pu dire, comme ils avaient fait avant, non, c'est pas vrai. Mais cette fois, ils n'ont pas osé mentir complètement.
Pas complètement, c'est le mot, ouais.
Et alors, pour entrer un peu dans le vif du sujet, on va parler un peu de Twitter, puisque c'est là que tout a commencé. Moi, personnellement, je me suis inscrite sur Twitter un peu sans trop savoir où je mettais les pieds en 2008, quand j'habitais à l'étranger. Et de loin, j'ai vu ce petit groupe s'agréger ensuite en rentrant en France. J'ai même parfois eu des potes qui en faisaient partie, et je m'en veux en fait pas mal de ça aujourd'hui. Pour résumer, c'était un petit milieu endogame qui organisait des soirées dans un bar parisien qui s'appelait l'Autobus. Donc tout le monde se connaissait, et je pense aussi que c'est ce qui a contribué à cette culture de l'omerta et cette loi du silence. Et je me demandais, vous, depuis quand vous êtes sur Twitter et comment c'était à l'époque?
Bah, moi, c'est pareil, c'était 2008. Et moi, je travaillais aussi avec Vincent Glade parce qu'on bossait sur Bien Bien Bien, le blog collaboratif. Alors, on n'était pas dans le même bureau, mais on se voyait très souvent. Moi, après, j'ai travaillé à Slate en traduction. Donc, j'ai croisé David Doucet en stage.
Donc, David Doucet, le rédacteur en chef des Inrecuptibles, voilà, qui a été lui aussi mis à pied.
Ouais, donc moi je connaissais aussi ces mecs-là. J'ai été, comme je l'ai dit beaucoup en interview, relativement protégée par rapport à d'autres qui ont subi des choses mille fois pires que moi, parce que j'avais le parrainage, on va dire, de Joanne Hufnagel, qui était aussi le parrain, on va dire, de Vincent et David Doucet.
Donc l'ancien rédacteur en chef de Slate, puis rédacteur en chef de Libération.
Voilà, qui avant était à 20 minutes. Et donc, je pense que si j'ai été relativement épargnée, c'est parce que j'étais aussi sous... un peu protégée par Joanne. Donc, en fait, j'avais des gens comme Vincent ou David qui ne venaient pas m'attaquer avec leur pseudo, qui peut-être le faisaient avec des comptes anonymes, mais en tout cas, ne venaient pas me parler directement comme ça, parce que je pense qu'ils avaient très, très peur de Joanne, notamment, et pas que, d'autres mecs qu'on connaît qui ont plus ou moins le même âge que Joanne et qui sont aussi des patrons de médias. Effectivement, à l'époque sur Twitter, il y avait beaucoup de gens qui se connaissaient, il y a beaucoup d'entrisme, médias, pubs, comme beaucoup de blogueurs et de blogueuses. Moi, j'ai eu un blog pendant 10 ans aussi, c'est comme ça que j'ai connu aussi Twitter. Beaucoup de geeks, beaucoup de nerds, des gens du milieu du jeu vidéo aussi. Moi, je traînais un peu dans plusieurs milieux à la fois, donc j'étais... En fait, aujourd'hui, beaucoup de gens me disent oh, « Mais attends, Nora, t'as subi ça de leur part, mais je croyais que c'était tes potes. » Parce que j'étais avec Glad sur Bien Bien Bien, j'étais dans les deux milieux, donc les gens en fait pensaient que moi j'avais rien à j'avais pas subi de choses de leur part. C'était petit, et c'est ça, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est ça aussi qui a entraîné une omerta, c'est que t'avais très très peur, puisque en fait c'était online et offline. Quand t'habitais à Paris, que tu traînais avec eux, tu savais très bien qu'ils pouvaient te faire du mal dans la vraie vie aussi. Enfin, la vraie vie, c'est nul, parce que la vraie vie, c'est l'ordinateur aussi, mais je dis ça parce que les gens disent la vraie vie opposée à le virtuel, ce qui est faux, en fait. Quand tu reçois une insulte sur ton écran, c'est la vraie vie, parce qu'en fait, ils te touchent. Donc ouais, il y avait cette endogamie, cet entrisme, cette omerta, et notamment quand tu étais dans le milieu, le même milieu que ces mecs-là.
Et vous, alors, quand est-ce que vous êtes arrivée sur Twitter, Léa ?
Alors moi, je l'ai raconté sur Slate.fr. Mon histoire, elle est un peu différente, parce que certains diraient que j'ai cherché le bâton pour me faire battre. Je suis arrivée sur Twitter en 2010.
Attends, c'est quoi ce victim blaming ?
Tu vois, j'ai tout intériorisé. Hein. Je suis arrivée sur Twitter en 2010. J'ai commencé à travailler dans le journalisme en pige pour différents titres, des titres de presse éco, des titres féministes. Et en fait, j'ai commencé à faire des blagues avec ces gens-là sur Internet. Je n'étais pas au courant du tout premier ou des deux premiers cas de harcèlement. Et en fait, je les trouve intéressants, je les trouve plutôt mignon, j'ai l'impression que ce qu'ils racontent, c'est intéressant, puis ils font plein de blagues, voilà. Et en fait, je me retrouve invitée dans leur soirée, d'abord invitée dans une soirée chez eux, chez l'un d'entre eux, puis après, je les recrois dans ces soirées, etc. Et donc, en fait, j'ai fréquenté ces gens, j'ai cru au départ qu'on était potes, et puis petit à petit, en quelques mois, hein, ça a été assez rapide, ça s'est gâché, c'est devenu en fait le cyberharcèlement groupé comme on l'a raconté, c'est-à-dire eux débarquaient et leur meute débarquait ensuite.
Mais on va parler un petit peu après.
Bien sûr, voilà. Et donc en fait, comment c'était Twitter à l'époque ? En fait, c'était comme ça, c'était souvent comme ça, c'était beaucoup de... On appelait ça des blagues, on appelait pas ça du harcèlement, d'ailleurs il n'y avait pas de législation sur le harcèlement. C'était l'époque où il y avait les tweet clash, donc en fait, tu gagnais du followers ou tu attrapais de l'attention en faisant des tweets clash. C'était un peu comme ça, c'était le contraire d'un safe space, c'était vraiment les gens avaient le droit de faire n'importe quoi, et quand on voit certaines blagues qui n'étaient pas forcément visées contre des gens, mais certaines blagues antisémites et racistes qui ressortent aujourd'hui, on se dit mais comment c'est possible que quelqu'un ait publié ça.
Bon, après c'était quand même pas admis, enfin ça fait longtemps que c'est pas admis de faire des blagues racistes et antisémites, donc
mais là-bas c'était admis, c'était l'impunité,
c'est
et même
West,
tu te faisais remarquer.
C'était le Far West hein, à l'époque Twitter. Enfin, je sais pas ce que t'en penses,
et toi, Daria,
mais...
quand est-ce que tu t'es mis sur
ça
Twitter ?
Ça devait être... je sais pas, j'ai dû m'inscrire en 2007, mais sans comprendre vraiment ce qu'on y faisait. Et j'y suis revenue en 2008 ou 2009. Moi, je suis
pile
pas...
au bon moment.
Ouais. Moi, je suis pas journaliste. J'étais une toute petite tumblereuse, puis blogueuse. Il se trouve que c'est, je crois, Lam Mua, le premier, qui m'a donné un coup de projecteur quand il a parlé de mon Tumblr à l'époque. Et du coup, ça arrivait très vite parce que bah, très vite, j'ai dit que j'étais grosse et que ça suffisait à se foutre de ma gueule. Et puis, je parlais de ma vie intime sur mon blog. Donc, c'était facile, en fait, de me faire du mal. Et puis, en fait, je me suis affirmée comme féministe aussi assez rapidement.
Donc, toi, t'as jamais... fréquenter ces gens-là.
Puis en plus, moi, à l'époque, j'étais enfermée chez moi par la maladie mentale, donc je ne risquais pas de les croiser. Mais oui, c'était très bizarre. C'était des gens qui, pour moi, étaient à la fois extrêmement méchants, extrêmement vils, et qui représentaient quand même le cool d'une certaine façon. Donc c'était extrêmement bizarre. J'ai relu un peu hier des vieux tweets, et je vois, par exemple, il y en a un de Light Carrier avec qui j'ai échangé au tout début de manière parfaitement badine. Enfin, c'est très bizarre de voir. J'avais pas fait, en fait, moi, toutes les connexions. Je savais pas que tous les gens étaient dans ce même groupe. J'en devinais quelques-uns, je ne connaissais pas tous les noms. Je suis un peu tombée du placard quand même quand j'ai vu tous les noms. Je ne savais pas tout, en fait. Moi, j'ai vraiment découvert des choses là. Et puis, après, ça a été un harcèlement long. Et Twitter, à l'époque, pour répondre à ta question, c'était à la fois ça, donc du clash permanent. Donc, je n'étais pas innocente, d'ailleurs, puisque moi-même, j'ai été très belliqueuse sur Twitter.
Oui, après, je pense qu'on a tous et toutes clashé, mais...
Daria et moi, on s'est clashé sur Twitter à une époque.
Absolument.
Mais sans menace mais, de mort ou de viol.
Elle ne m'a jamais harcelée, je ne l'ai jamais harcelée. Il y a une différence, en fait.
J'ai eu des articles assez durs sur des blogueuses, notamment des blogueuses mode, comme Didi Paris, comme Kenza, qu'on me reproche aujourd'hui comme du harcèlement. Non, j'ai jamais harcelé ces personnes. Mmh. Et je regrette pas ces articles, en fait, même s'ils sont un peu hardcore, je les regrette pas du tout, parce que je stand behind ce que je pensais à l'époque de leur pratique. Bref, donc oui, il y avait du clash, mais en tout cas, de la part de meufs, j'ai jamais vu de harcèlement, j'ai jamais vu de lol to shop, comme on disait à l'époque, j'ai jamais vu de...
Donc c'est un montage photo.
J'ai jamais vu de menace de viol, j'ai jamais vu de groupe de meufs qui s'organisent, enfin voilà, ouais. Ça j'ai pas vu.
Et alors pour en venir vraiment au cœur du sujet qui est le harcèlement et le cyberharcèlement, moi de mon côté, je me suis rendu compte vendredi que j'avais complètement refoulé avoir été ciblée par ces gens, c'est très bizarre. Et d'ailleurs j'ai dit à quelqu'un, ah non mais moi, j'ai pas été harcelée.
Alors ça, c'est quand même étonnant, parce que je vais outer le fait qu'avec Clem, on est très potes depuis
mais
cette époque-là.
Et
c'est vrai que avec Clem et Mélanie...
Mélanie Manga, avec qui on a fondé...
Qui était avec, dans Quoi de Meuf aussi avant. Et en fait, avec Mélanie, on s'en parlait tous les 8 ans, et on se disait... Depuis 8 ans, tous les 1 ou 2 ans, et on se disait... Putain, mais il faut que ça sorte, ce truc. Et nous, on savait le système de la Ligue du LOL, on avait compris.
Ouais, pas que tous les ans, parfois tous les week-ends.
Non, mais au tout début, on en parlait beaucoup, et après, ça revenait. C'est revenu quand Alexandra Hervault avait répondu, à l'époque, on était des petits cons, et elle, de sacrés connes. Ça, c'était l'an dernier, c'était sur Twitter, et donc c'est fou que t'aies complètement oublié ça.
Ouais,
quoi.
J'ai complètement occulté, mais aussi parce que ça n'a pas pris les mêmes proportions
que pour nous,
que vous. Donc moi, juste pour décrire ce qui s'est passé, sans le minimiser, mais c'est quand même moins pire que vous. Moi, je me suis rendu compte qu'ils me ciblaient à plusieurs dès que je me mettais à parler de féminisme, et donc en fait, je les ai tous bloqués, et donc j'ai cessé de voir en fait leurs activités nocives. Mais j'étais entourée de gens, notamment de copines, tu l'as dit, qui elles étaient harcelées et beaucoup plus fréquemment et plus violemment que moi. Et en fait, ça a été vraiment comme une épée de Damoclès, c'est-à-dire que je me demandais tout le temps quand est-ce que ça allait me tomber dessus. Et moi aussi, j'ai vécu dans la peur, comme vous, puisque ces gens semaient la terreur, parfois de manière même assez arbitraire, et en plus, tout en régnant sur les médias. Du coup, pour moi, Twitter, ça n'a jamais été un safe space, je pense qu'il ne faut pas se leurrer là-dessus. Mais c'est surtout devenu un endroit dangereux où on vous disait de la boucler, en fait. Donc, en fait, on a été obligés de notre côté de créer un groupe Facebook privé féministe, simplement pour pouvoir se parler sans être harcelé. Voilà. Mais vous, en tout cas, je me demandais comment, sous quelle forme ça avait commencé ce harcèlement.
Alors, quand tu parles d'épée de Damoclès, moi, c'est exactement, et c'est ce que Daria dit tout à l'heure, c'est que tu te demandes quand ça va tomber, parce que tu sais que ça va tomber, en fait. Et le harcèlement, le cyberharcèlement, il est protéiforme, c'est pour ça que, en fait, on est beaucoup de victimes à dire « Attends, moi, c'est moins pire que toi, moi, c'est pire. » Et en fait, moi, pareil, j'ai l'impression de, je sais pas, de piquer la parole de quelqu'un qui a été plus harcelé que moi, mais en fait, le harcèlement, ça revêt différentes formes.
Et je sais pas si vous avez, pardon, je te coupe, mais si vous avez eu cette réaction, j'avais tellement mis un couvercle sur ce qui s'était passé, je voulais pas m'en souvenir et tout ça, qu'à un moment j'ai eu, mais ils m'ont vraiment fait ça. Enfin, j'ai eu besoin de retrouver des preuves.
Exactement. Moi, je me suis dit, je suis pas en train d'inventer.
Ouais. Exact. Mais moi aussi.
Bah, il y a un phénomène de dissociation aussi. Mais on finit par se dire que ça nous a pas concerné.
Et puis le fait d'avoir un pseudo, moi, d'être Daria Marx et de pas être sous ma vraie identité, mine de rien, ça m'a vachement aidé aussi à me dire, ok, c'est mon avatar qui prend, c'est pas moi, et ça m'a vraiment sauvé. Mais j'ai eu ce truc de me dire, ça, c'est pas possible que ça me soit arrivé.
Et c'est pour ça que moi au départ, je voulais pas témoigner, et que les années précédentes, quand il y avait une première enquête qui avait démarré chez BuzzFeed, je voulais pas témoigner parce que je disais, non, mais en fait, ils ont tellement supprimé de choses qu'il restera pas de preuves. En fait, on va pas nous croire. En fait, on va nous poursuivre en diffamation.
Absolument, mais complètement.
On a vu notamment ce week-end, ça a été comptabilisé, que certaines de ces personnes avaient supprimé jusqu'à 300 tweets. Voilà.
Ouais, donc pour revenir aux formes de harcèlement, moi BuzzFeed, j'avais dit moi je parle, alors là, enfin vraiment, moi je m'étais dit je donne mon nom, je m'en fous, enfin c'est pas possible quoi, c'est enfin ça va sortir, enfin ça fait 10 ans effectivement, comme vous Clémentine, Léa, avec des gens on en reparlait tous les ans, la Ligue du LOL. Sur Twitter, il y a des gens qui disaient, mais c'était quoi cette histoire de Ligue du LOL, qui venaient me voir en me disant, est-ce que tu connais, est-ce que tu m'as acheté là? Oui, oui, bah oui, si tu veux,
tout le monde connaît en fait.
Si tu veux, on en parle en privé, mais je suis pas la seule, je peux te donner plein de noms de gens qui sont au courant. Pour ma part, mon cyberharcèlement, c'était, alors comme j'ai déjà dit, des insultes, surtout via des comptes anonymes ou les comptes de certains qui étaient, qui s'en foutaient complètement de mettre leur nom et de te harceler derrière. Des photomontages pornographiques et racistes, parce que Nora Boisouni, bah ça sonne pas très français évidemment, il faut le. il faut le souligner.
Il faut bien,
hein,
il faut bien te le rappeler.
Voilà, je me rappelle avoir eu des mails qui étaient donc faits avec des adresses mail jetables, hein, des mails qui étaient extrêmement bien écrits. Mmh. Extrêmement littéraire. Parce qu'en fait, dans ces mecs-là, il y en a qui se prennent pour le Marquis de Sade et qui se targuent d'écrire très bien. Il y en a qui écrivent très bien, hein, je veux dire, voilà, très bien. Mais alors, du coup, c'est des mails où on me disait ce qu'on aimerait bien me voir faire ou faire faire ou qu'on me fasse. Il n'y avait pas le mot viol, hein, mais clairement, bon, bah, si j'étais pas consentante. C'est comme ça que ça s'appelle. Et puis des mails d'insultes. Alors j'ai du mal à. Je ne les ai pas retrouvés ces mails. Hein. Je ne sais pas comment les retrouver d'ailleurs. Je ne sais pas si je ne les ai pas effacés. Des mails très bien écrits, des choses vraiment des insultes extrêmement littéraires parce que ces mecs-là se la racontaient à mort là-dessus. On est brillants. Enfin, on l'a vu encore. Voilà, on est brillants, quoi. Tu vois. On est des génies. Il y a eu ça. J'ai eu. Et en fait, moi, ce qui me faisait le plus de mal, c'était cette épée de Damoclès. Alors moi, j'étais pas. Je ne parlais pas de féminisme sur Twitter à l'époque. J'ai été harcelée entre 2010 et 2012, je dirais. Mais c'était la surveillance.
Ouais.
En fait, c'est ça, moi, qui me faisait beaucoup de mal. C'est-à-dire que, en fait, en 2010, j'étais à Montréal. J'ai vécu à Montréal de septembre 2009 à juillet 2010. Et c'est pendant cette année-là qu'il y a eu l'autobus. Donc moi, j'ai vécu les trucs de l'autobus de très loin et ça me terrifiait. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'était terrifiant, ces soirées avec ces filles qui étaient très saoules et je ne savais pas trop ce qui se passait. Mais à Montréal, j'étais en décalage horaire, il y avait 6 heures de moins. Et moi, j'étais terrifiée à l'idée d'aller me coucher, parce que j'avais trop peur de me réveiller et de voir ce qui aurait pu tourner sur moi. Et pendant des heures, et surtout que c'était en décalage horaire, donc ça aurait été la journée pour la France, et tout le monde l'aurait vu. Et la force de frappe de tous ces mecs-là, c'est affreux. C'était de se dire, ça se trouve, pendant 8 heures de sommeil, t'as 150 personnes qui vont retweeter des trucs sur toi et tout le monde les verra. Donc j'étais, comme dit Daria, tu vois, moi aussi j'étais très belliqueuse, j'ai été agressive, j'étais connue entre guillemets pour clasher, mais parce qu'il y a un moment où tu te dis, si je suis pas agressive, ils vont voir que je suis faible, donc c'est je vais vrai. Essayer.
Tu vas être la tu cible,
vois, tu dis, ils vont, et tu dis malheureusement, peut-être qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre, une plus faible que moi, parce qu'ils vont voir que moi je réponds. Tu parles, tu nourris le troll, tu nourris les connards.
Never donc, feed the troll.
C'est ça. Et au-delà, c'est qu'ils se disent, ils en avaient rien à foutre en fait, ils ciblaient les gens qui avaient l'air fragiles comme les gens qui avaient l'air forts ou qui l'étaient, parce que c'est d'autant plus valorisant quand quelqu'un qui a l'air fort te balance en tout cas la gueule et que tu réussis à l'écraser, à l'humilier. Donc moi j'ai eu voilà, ces harcèlements-là, quelques photomontages, insultes, et puis et surtout cette surveillance en fait, je savais que quoi que je postais, quoi que je disais, même si c'était rien d'engagé, parce qu'à l'époque j'étais pas militante féministe.
Ils venaient liker
Bah, en fait c'est même pas qu'ils venaient
hate liker.
Ouais, il y avait du hate like à l'époque effectivement, mais c'est surtout qu'ils venaient tout commenter. Ils commentaient le moindre tweet. Et à l'époque il n'y avait pas de RT automatique, vous vous rappelez, c'était des RT manuels. Et
c'est pas de retweet.
Ouais. Les faux RT, voilà, les faux RT où ils te faisaient parler alors que tu n'avais jamais dit
voilà.
ça.
En fait il faut faire attention aujourd'hui quand on voit les screenshots de l'époque aussi, parce qu'il y a des choses qui étaient vraies. Et il y a des choses qu'il y avait l'effet carté. Alors, entre potes, je me souviens qu'avec des copains et des copines sur Twitter, pour nous faire rire entre nous, on le faisait, on mettait des jeux de mots pourris. Ça nous faisait rire, nous. Mais eux l'utilisaient à mauvais escient. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut vraiment, je pense, faire attention à tous les screenshots qu'on voit avec des RT. Il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fabriquées. Mais du coup, tu te réveillais le matin et tu voyais un faux RT d'un truc abject qui te faisait dire et qui tournait des trucs souvent à caractère sexuel. Et t'es là, genre... Et tu te dis, putain, ça fait 8 heures que tout le monde voit le truc, quoi. Et à l'époque, Twitter, c'est encore une catastrophe pour signaler. Mais à l'époque, vous imaginez, c'était vraiment le Far West, quoi.
Il n'y avait pas d'outils, quoi.
Pour bloquer quelqu'un, c'était l'enfer. Puis tu voyais ça retweeter en masse, toi. En masse, parce que c'est ça le truc, c'est comme disait Léa tout à l'heure. Et comme disait Daria, ces mecs, ils sont nombreux. Du coup, il y en a un qui tweet, bah, t'en as 35 derrière, et 35 fois leurs followers. Personne qui fait rien, quoi.
Et personne n'osait nous défendre.
Ouais.
Moi, j'avais des DM de gens qui me disaient « Écoute, je te défends pas parce que franchement, si je parle, je vais m'en prendre plein la gueule. Ouais. Mais je suis avec toi, je te soutiens. » Et moi-même, avec, par exemple, à l'époque, je fréquentais Mathias, Benjamin Lorelli. Je fréquentais Benjamin Lorelli.
Un auteur qui a lui-même été harcelé.
On en parlait. Mais je sais qu'on prenait très rarement la défense publiquement l'un de l'autre parce que ça n'aurait fait qu'exacerber le harcèlement. Et qu'on s'envoyait des DM en disant « Oh là là, mais je sais pas quoi faire, je suis désolée. » Mais on n'osait pas, on n'osait même pas défendre nos amis, tellement on avait peur.
Exactement.
Donc, il y a à la fois une logique de meute, donc en groupe, l'usurpation d'identité, les messages racistes, sexistes publiés sur vos blogs ou vos sites, des canulars téléphoniques.
Des commentaires sur les blogs, moi je me souviens des commentaires sur les blogs, Nora ou le mien, vraiment c'était des trucs mais immondes.
des canulars téléphoniques. Ça, ça t'est arrivé,
ouais,
je crois.
Ouais, ça m'est arrivé, ouais.
Et moi aussi. J'en ai pas parlé dans l'interview parce que c'était moins grave, parce que finalement j'ai su...
Enfin, moins grave.
Non, parce qu'en fait, je suis pas tombée dans le panneau, en fait. Mmh. J'ai senti le truc, je suis pas tombée dans le panneau. Donc, la blague les a fait tourner court. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'en ai un peu parlé, mais l'autre truc pour moi, c'était quand même pas mal le dénigrement professionnel. Mmh. Et donc, cette page sur un site de référencement et de commentaires sur les journalistes, dans lesquels ils disent évidemment que je suis nulle, que je suis
donc
pas
ça,
bonne.
Ça, c'est la Ligue du LOL.
Ça, c'est la Ligue du LOL.
D'accord.
Évidemment, je ne peux pas.
Je me suis toujours demandé, en fait, puisque moi aussi, je suis référencée sur cette page.
Mais ce site, c'est... Non, alors, attention à pas faire de diffamation et pas raconter n'importe quoi. Ce site, c'est pas la Ligue du LOL, hein. C'est un site officiel, etc. Ce qui est bizarre, c'est qu'à l'époque, il n'y avait que des journalistes très connus de télévision. Que nous, on n'était rien du tout et qu'on a fini sur ce site. Mmh. Donc, je pense qu'ils ont créé des pages. Ce que je veux dire, moi, et je ne peux pas le prouver parce que je n'ai pas les IP, mais tous ceux qui savent comment fonctionnait leur humour sauront. Quand il y a écrit nul, 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 archive nul, devrait faire du porno plutôt que du journalisme.
Oui,
quand il y a écrit journaliste brillante, ah, mais quel cul, ce genre de choses, c'est leur humour. Mmh. Et ça, ce que je veux dire, c'est que ça reste. Et quand on me cherche et qu'on a journaliste à côté de mon nom, c'est toujours en première page écran. Et moi, j'ai pas dit les canulars, mais du coup, j'en parle ici. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'ils avaient inscrit mon mail dans plein de sites et plein de trucs.
Pareil.
Donc sur mon mail professionnel,
j'ai
je recevais
ça,
toutes les blagues de mails boulés, je sais pas quoi. Alors t'étais là, tu mets en spam,
Libra de Téna, tous les sites porno.
Et le tout dernier, c'est un truc à la con et j'en ai ri parce que j'ai un humour second degré un peu bizarre, mais. Il m'avait inscrit pour les promos, mon numéro de téléphone pour les promos d'un site de matériel de pêche.
Oh, j'ai été inscrite à 75 newsletters pêche, chasse et compagnie par je sais très bien qui, mais bon.
Ce qui veut dire que, en fait, pendant 8 ans, jusqu'à la RGPD, moi, tous les 6 mois, je recevais un texto de promo pour des cannes à pêche. Et à chaque fois, je me rappelais, putain les cons.
Mais nous, on aurait dû les inscrire sur des newsletters d'agrandissement de pénis.
Eh bien, figure-toi que je l'ai fait, car je savais très bien qui m'a inscrit à l'époque. Et je l'ai inscrit. Et c'est un peu ma stratégie actuellement.
J'ai fait des trucs un peu comme ça aussi.
Moi, depuis trois ans, ma stratégie quand quelqu'un m'insulte, me harcèle, etc., et que j'ai son mail, que je retrouve son mail, je l'inscris et que je suis insultée par rapport à mon travail féministe, etc., je l'inscris à toutes les newsletters féministes qui existent.
Ah, c'est génial, parce que c'est pas du harcèlement.
Parce que
c'est de la culture G.
Parce que
de
l'information. En plus, je l'informe, voilà, je lui apprends des choses.
D'accord. Et Léa, tu pourrais expliquer ce que c'est un raid?
Ah oui,
c'est une des modalités d'action.
Je pense qu'on l'a tout un peu dit, mais en gros, le principe, c'est y en a. Alors moi, c'était quand j'écrivais des articles qu'ils trouvaient pas assez bons ou quand je parlais de féminisme. Donc il y en a un qui arrive, il y a les autres qui arrivent et qui font des blagues. Comme tu disais tout à l'heure, certains d'entre eux étaient très fins. Il y en a qui faisaient de l'humour très très fin. Tu vois que c'est du sexisme derrière, mais c'est tellement tourné de manière drôle, etc. Donc il y avait les autres qui étaient beaucoup plus trash. Et puis après, il y avait tous leurs followers. Et alors là, c'est là que tu te prends le torrent debout. Pute, salope, comment ça, tu sais pas faire ton métier. Tout ça, ça venait aussi beaucoup des gens qui les suivaient, en fait.
Donc il y a un effet d'entraînement.
Il y a un effet d'entraînement et ça monte petit à petit dans la journée. Et quand aujourd'hui, des gens dans le journalisme, un ancien rédacteur en chef dit on voyait pas ce qui se passait. En fait, eux, ils voyaient 3-4 tweets.
Ouais, c'est faux.
Alors, il y en a qui voyaient. Celui auquel je pense, il ne voyait pas ce qui se passait, lui vraiment. Mais ce qu'il voyait, c'était 3-4 tweets, 3-4 petits trucs. Et en fait, le truc, c'est qu'on comprend un raid que quand on voit la totalité du raid,
oui,
quand tu vois les 100 trucs.
Quand on est la personne qui reçoit tous ces tweets.
Mais je suis d'accord avec Daria. Je pense aussi que certains étaient au courant.
Mais il y en a plusieurs qui étaient au courant, qui aujourd'hui font comme s'ils n'étaient pas. Enfin, c'est étonnant parce qu'en plus, c'est des gens qui... Ben, moi, j'attendais un message de la part de certaines personnes qui n'est toujours pas arrivé et je pense que je peux l'attendre assez longtemps.
Il n'est pas trop tard, si vous nous entendez.
Si vous nous entendez, vous savez qui vous êtes et j'attends peut-être un coup de fil pour aller boire un café.
Donc l'objectif de ce harcèlement, ça a été notamment de réduire des personnes au silence, de les éloigner des réseaux sociaux, mais aussi, tu l'as dit Léa, de les précariser, donc de nuire à leur réputation professionnelle, mais aussi à leur santé mentale. Est-ce que vous pourriez parler des effets concrets que ça a produit sur vous, soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, si vous voulez?
Alors moi, pas comme je disais, j'ai été relativement épargnée de ma proximité avec Johan Hufnagel ou même David Carzon à l'époque.
David Carzon qui dirige aujourd'hui
Binge Audio. J'ai été relativement épargnée, mais pas quand j'étais à Montréal. C'est-à-dire que quand j'étais à Montréal, déjà j'étais isolée, je suis partie toute seule, j'avais pas d'amis là-bas, pas de famille. Et j'ai des amis qui sont venus vivre là-bas au mois de mars, je crois, fin février-mars, mais tout l'hiver. Les contacts que je m'étais, parce que je bossais dans la musique à l'époque, tous les contacts que je m'étais faits étaient partis dans leur famille pendant assez longtemps, pendant 2 mois.
Donc, grand moment de solitude.
J'étais toute seule, il faisait moins 40, je ne sortais pas de chez moi, je travaillais, je traduisais des articles pour Slate notamment. Je ne sortais pas de chez moi, j'ai pris beaucoup de poids, je me couchais du coup à 6h du mat, en fait j'étais un peu à l'heure française pour essayer de faire du damage control de ce que ces mecs pouvaient raconter. Et j'ai fait une dépression, j'ai mis beaucoup d'années à dire que c'est une dépression, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font des dépressions plus graves, tu vois, il y a toujours ce truc de minimiser les dépressions, quoi. Mais c'était exactement ça. Et la ligue du... Donc la dépression n'était pas liée uniquement à ça, elle était liée mon isolement. Et en fait ça a été exacerbé par la ligue du LOL et par le harcèlement et par le fait d'avoir peur d'aller me coucher parce que j'avais peur du lendemain, de voir ce qui avait été tweeté en absence pendant mon sommeil.
C'est un état d'hypervigilance,
en fait. C'est ce que j'ai revécu quand j'ai eu des raids jeuxvideo.com après la sortie de mon livre, etc. T'as peur de te réveiller le matin parce que tu vas avoir 394 mentions.
Et c'est exactement cet état que je retrouve aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de raid, mais juste la mention de ces personnes et de ce qui s'est passé et le fait d'en parler me remet mon corps, mon esprit dans cet état d'hypervigilance que j'avais pas connu depuis un moment.
Et enfin, je sais pas si tu veux parler de ce que tu as ressenti à l'époque.
Moi, en plus, c'était la pire époque de ma vie.
Enfin, en plus, toi-même, t'avais une maladie mentale qui était déjà un problème pour toi à gérer.
Qui n'était pas du tout géré à ce moment-là. Donc, c'était le moment où j'étais diagnostiquée de ma bipolarité. Et c'était une période de ma vie, en fait, où réellement, je suis très, très peu sortie de chez moi pendant 2 ans. C'est-à-dire, pas juste sortie de chez moi parce qu'il faisait froid.
Ouais.
Juste pas sortie de chez moi parce que j'étais complètement agoraphobe et que aller chercher le courrier me provoquait une crise d'angoisse. Donc, c'était des périodes vraiment extrêmement difficiles où j'avais trouvé dans les réseaux sociaux une espèce de fenêtre vers dehors. Et donc, ces gens-là, ils m'ont claqué les volets de la fenêtre à la gueule, en fait. Et ils m'ont... D'abord, ils ont ridiculisé ma maladie mentale. C'est-à-dire qu'ils m'ont... Ils m'ont vraiment fait du mal là-dessus. Ils se sont moqués de moi là-dessus, alors que c'était extrêmement douloureux.
Donc ça, c'est des propos qu'on appelle psychophobes.
Absolument, de la psychophobie. Après, la grossophobie, j'étais peut-être plus habituée, mais ça m'a fait énormément de mal aussi. Mais vraiment, la psychophobie et en fait, moi, le harcèlement le plus dur, ça a été autour de l'affaire de mon scooter, puisque je suis devenue une espèce de légende urbaine à cause de ça. Il se trouve que j'allais un peu mieux, j'avais enfin le bon traitement, je recommençais à travailler. Mais prendre les transports, c'était toujours l'enfer à cause de mon angoisse pathologique. Et donc, c'était bientôt mon anniversaire et j'ai commis un crowdfunding pour m'acheter un scooter, effectivement. Dans lequel j'expliquais que j'étais agoraphobe et que j'avais besoin de ce truc pour continuer à bosser, etc. J'ai eu le malheur de le tweeter une fois en me disant, je sais pas, peut-être. Et ça a été l'horreur absolue. Ils ont remis en cause tout ce que je disais, toute ma maladie mentale, les difficultés que je rencontrais. Ils m'ont insulté, ils ont mis mon téléphone partout, ils ont mis des annonces
sur le bon coin. Notamment, ouais.
Madame Grosse vend son scooter, et donc je recevais des centaines d'appels. Je voudrais acheter votre scooter, Madame Grosse. C'était l'horreur, quoi. J'ai vécu des jours horribles. Et moi, j'étais déjà fragile à cause de la maladie mentale et j'ai pensé à me foutre en l'air. Je pense une bonne demi-dizaine de fois à cause de ces mecs-là, on va pas se mentir.
C'est normal. Enfin, surtout, il faut quand même avoir beaucoup de temps libre pour s'occuper à faire ce genre de choses.
Rendez l'argent, les gars.
Ouais, franchement, c'est assez fascinant. Je sais pas si toi, Léa, tu veux ajouter quelque chose.
En fait, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que ce qui a été le plus dur, c'était le fait d'être remise en cause et remise en question en permanence sur mes compétences professionnelles. Il se trouve, et je l'ai dit dans mon papier de Slate, que j'avais encore des progrès à faire à cette époque, progrès que j'avais fait à la fin de mes contrats à Libération, parce que j'avais beaucoup travaillé, parce qu'il y avait un réel progrès dans mes papiers, que j'avais sorti quelques scoops après, etc. Mais en fait, voilà, ça touche ta confiance en toi, ça touche l'image que tu vas laisser. Évidemment, ça va faire quelques jours où tu vas faire des erreurs. Ouais. Je racontais le raid qui a été le plus dur, c'est forcément... Enfin, en fait, je me dédouane pas puisque je dis que j'ai fait une erreur professionnelle. Mais quand on se prend ça dans la gueule toute la journée...
Oui, mais sauf
en fait,
que comment... eux ne se prenaient pas des raids à la bien moindre sûr. Erreur et n'étaient pas scrutés dans leur bien travail sûr. De la même manière, mais avec la même pression.
Comment
et...
tu arrives à bosser quand tu te prends ça dans la gueule pendant toute la journée? Je suis désolée, forcément, il y a une journée où t'es pas efficace. Donc pour moi, ça a été ça les effets en fait. Mmh. C'est plus des effets comment on se construit professionnellement. Et moi, ma réponse ces dernières années, ça a été d'essayer de bosser, d'essayer d'être meilleure, d'apprendre à mieux enquêter, à mieux écrire. Et d'abord à prouver ça pour moi et pour leur prouver à eux. Quoi.
Ouais. Mais pour le coup, c'est vraiment une charge mentale et émotionnelle en plus d'avoir cette pression-là et le fait de devoir prouver ses compétences que les hommes eux-mêmes n'ont absolument pas à prouver.
On doit tous prouver nos compétences, on doit tous le faire comme ça, mais c'est beaucoup plus dur dans un contexte
bien
comme
sûr,
celui-là.
Mais pas en étant harcelé.
Moi, ce qui m'a marqué et qui me marque encore, puisque c'est encore, c'était encore le cas jusqu'à quelques jours, c'est que depuis... j'ai toujours dû fréquenter professionnellement ou bosser avec ces mecs, en fait. Mmh. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à piger pour Libération, quand Johan et Fnagel et David Carzon sont revenus à Libération, je pigeais, moi, c'est David Carzon, mon interlocuteur, et puis après, il est parti. Et c'est Alexandre Hervault qui est devenu mon interlocuteur.
Wow.
Alexandre Hervault qui était...
Qui m'a harcelé depuis...
Ouais, voilà. Et qui m'a harcelé... surtout pendant que j'étais à Montréal, qui a été infect avec moi quand j'étais déjà à terre à Montréal, qui était celui qui voilà, surveillait, répondait à tous mes tweets, enfin, c'était, voilà, qui a fait un ou deux photomontages de moi aussi. Et du coup, de voir des années plus tard lui proposer des sujets.
Ouais.
Moi, je me suis dit. En
ouais,
fait,
exactement pareil. Hein.
Tu vois, bah, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais. Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi ce bordel en fait?
Ah, mais moi.
Et pardon, il a accepté. Enfin, je veux dire, on a eu des relations de travail tout à fait lambda, enfin, comme si de rien n'était, quoi, en fait.
Mais c'est aussi parce que depuis, t'étais devenu quelqu'un de légitime, et donc du coup, peut-être puis, dans ce cadre professionnel, il pouvait pas.
Peut-être, mais en tout cas, enfin, je veux dire, il m'a jamais rien dit. Enfin, je veux dire, vraiment, on a eu des relations professionnelles tout à fait exemplaires, on va dire, par mail. Il n'y a pas eu de problème quand on s'est croisé à une soirée à Libération. Enfin. Mais vraiment comme si de rien n'était, quoi.
Enfin, il y a une dissonance cognitive là qui est très violente.
Je me suis dit, mais quand même, c'est. Enfin, il y a que moi qui y pense je me suis dit, il y a que moi qui y pense quand je lui envoie des mails pour parler de séries, de trucs. Et du coup, et pareil, de voir bosser avec ces mecs-là, c'est. Tu te dis, mais il y a quelque chose qui cloche, quoi.
Moi aussi, je me suis retrouvée dans des rapports de hiérarchie et donc à devoir proposer des articles sur le féminisme à tous ces gens qui ont donc noyauté la plupart des médias mainstream. Et
donc, tu veux dire à David Doucet aux Inrocks, c'est ça?
Pas que. et donc, et même à aller à des réunions où ces gens me demandaient les yeux dans les yeux de proposer des articles sur le féminisme. Et moi, je pensais que c'était une blague, en fait. Mais en fait, non.
Je veux bien faire un petit écart sur ce que vous dites et pour parler de ce qu'on fait pour l'association Prenons la Une, donc l'association de défense des femmes journalistes
J'allais y venir.
Et d'une meilleure représentation des femmes dans les médias. L'une des revendications qu'on fait, c'est mais en fait, si ces gens-là sont en poste, ça va continuer à avoir une influence sur toutes les jeunes femmes qui vont travailler avec eux. Je veux dire, non seulement sur les victimes, mais aussi sur toutes les autres jeunes femmes. Parce que si t'as une forme de sexisme aussi forte ancrée dans ta tête, forcément que ça va impacter dans ta manière de choisir les sujets ou de pas choisir les sujets. Et en fait, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que les rédactions se remettent en question là-dessus.
On va y venir. D'abord, juste avant ça, je voulais rappeler quand même que la nature même du harcèlement en ligne, qui souvent dépasse les frontières du virtuel, on l'a dit, c'est d'être parfois moins visible, plus intangible, puisqu'on peut effacer des messages, et c'est souvent moins pris au sérieux, par exemple, que le harcèlement scolaire, y compris dans ces cas précis où c'était pas du tout anonyme. Pourtant, ce sont des violences, et 2/3 des femmes sont victimes de cyberharcèlement, il faut quand même le rappeler, et d'ailleurs, nous, de notre côté, on s'est souvent demandé ce qu'on pouvait faire en fait concrètement, quel type de preuves il fallait recueillir, si on pouvait même déposer des mains courantes. Moi je me souviens qu'à l'époque, à Libération, j'avais demandé à l'organisation d'un atelier sur le harcèlement des femmes journalistes qui n'a jamais eu lieu puisqu'on
précurseuse.
Early adopter puisqu'on m'avait envoyé bouler. Donc pour rappeler les recours légaux Le cyberharcèlement est régi par un délai de prescription de 6 ans, mais ça, ça date seulement de février 2017. C'est-à-dire que tout ce qui a été commis après février 2014 a des chances de ne pas être prescrit. Mais il faut aussi savoir que c'est le dernier délit qui compte. Donc par exemple, s'il y a un tweet qui a été écrit en 2016, il peut y avoir une plainte. Par ailleurs, Marlène Schiappa a proposé d'intervenir pour allonger le délai de prescription peut-être à 10 ans. Et il y a également des règles sur le numérique qui ont été adoptées en août 2018 qui précisent bien que le harcèlement en ligne est devenu une circonstance aggravante et qu'on passe de 2 à 3 ans de prison avec quand même 45 000 euros d'amende pour les faits survenus après août 2018, selon l'Express. Donc tout ça, c'est pas rien, mais encore faut-il pouvoir le prouver. Et on sait très souvent que les harceleurs harcèlent parce qu'ils profitent d'une certaine impunité.
Et SOS Racisme a dit qu'ils étaient en train de réfléchir à une procédure, une action en justice au pénal contre eux pour suppression de preuves. Ouais. Pour ceux qui ont supprimé pendant le week-end les tweets les plus racistes et les plus agressifs.
Alors, pardon, hein, mais moi, j'ai aucune confiance là-dedans. Ouais. Je me permets de le dire.
Ah non, mais c'est bien
dans la justice, tu veux dire ?
Oui, dans la justice.
Non, parce qu'il y a la loi et ensuite il y a l'application de la loi.
L'application de la loi. Moi, j'ai été dans un commissariat à deux reprises à cause de ça. On a refusé de prendre ma plainte. J'ai donc laissé des mains courantes contre Stéphane Desaulnois, des Gonzos et contre.
Donc, l'ancien rédacteur en chef du Tech Parfait.
Exactement, et contre Renaud-Claude Aledo.
Un publicitaire.
Voilà, je pense qu'ils n'ont jamais été inquiétés parce que ça ne les a pas embêtés. Mmh. Donc, pardon, mais. Moi, je crois surtout contre le cyberharcèlement qu'il faut empowerer les meufs. Quoi. Mmh. Mais eux, il faut qu'ils soient forcés par la pression des meufs, par la pression de la loi, par la pression des médias, par la pression de tout le monde à ne plus harceler et à ne plus être des connards sexistes. Moi, ça, c'est à ça que je crois.
Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Clémentine, sur le harcèlement scolaire, par exemple, et ce qu'on disait de offline, online. Moi, j'ai vécu du harcèlement scolaire au collège. Pour rien au monde, je revivrais mon année de quatrième, par exemple.
Tu savais que c'était mal à l'époque, alors que tu étais enfant.
Incroyable.
Voilà. Hallucinant, dis donc. J'ai vécu une année... abominable. Mes parents, j'espère qu'ils n'écoutent pas ce podcast, parce qu'ils ne sont pas au courant, mais j'ai failli me foutre en l'air. Et quand je me suis fait harceler par la Ligue du LOL, pour moi, ça faisait aucun doute que c'était du harcèlement, parce que j'ai revécu et je voyais.
Mais c'est les mêmes mécanismes et la continuité
la même
des
chose.
Pratiques.
Bien sûr. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en quatrième et qu'il y avait la récré du matin et qu'il se mettait à 30 devant moi, qui m'encercle dans la cour et qui me chantait une chanson insultante qui avait été écrite pour moi pendant le cours d'anglais une heure avant, et que j'ai vécu 30 mecs qui viennent et qui retweetent des photomontages et des insultes de toi, c'est exactement la même chose.
Ouais.
Parce que toute la cour de récré le voit, et là, toute la cour de récré sur Twitter le voit aussi.
Ouais.
Donc moi, je n'ai jamais eu aucun doute, moi, que c'était pour moi la même chose.
Ouais. Enfin, sauf que là, c'est des personnes majeures, donc c'est d'autant plus illégal.
Et qui te disent on était jeunes, mais à quel moment on est plus jeunes ?
Majeures et en position de pouvoir. Enfin, il faut aussi qu'on rappelle ça, parce qu'à l'époque, ces mecs-là avaient déjà une carrière toute tracée. Moi, ça me fait rire quand on reproche à Nora ou à moi d'avoir été belliqueuse, mais on n'était personne, et moi encore moins que Nora, mais vraiment, on était... personne, quoi. On n'était rien, on n'avait pas de réseau, on n'était rien. Enfin, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, quoi. Les structures de domination sexiste, il ne faut pas les nier, quoi. Et elles étaient déjà à l'œuvre dans le harcèlement qu'on a subi à l'époque.
Alors justement, je voulais qu'on parle de ces rapports de domination patriarcaux, puisque effectivement, on a pu lire ces derniers jours que c'était des gens bêtes, des blagues de gamins inconscients ou des losers, ce qui, à mon sens, déresponsabilise les coupables et minimise et surtout invisibilise les dimensions genrées, tu l'as dit, racistes ou homophobes, et l'aspect très spécifique de ces discriminations. Il faut quand même rappeler que très souvent, voire dans la majorité des cas, l'entre-soi masculin produit, tu l'as dit, de la domination, de l'exclusion, et qu'il y a une tentative vraiment de soumission et de réduction des femmes à la passivité. Ça, c'est le sociologue Raphaël Liogier qui en parle, mais aussi une tentative de soumission des hommes non conformes à la masculinité qu'on appelle hégémonique, et une volonté de les faire payer. Et donc ça s'est exercé sur Twitter, mais aussi dans les rédactions, puisque ces groupes-là ont confiné à une forme de networking quasiment masculiniste. Et on l'a dit, ils ont également bâti leur sociabilité sur l'exclusion et la haine des personnes minorisées. Donc par exemple, en accusant une femme professionnelle d'avoir couché pour avoir un travail, ce qui permet donc pour eux d'éliminer toute concurrence dans des domaines professionnels. Et ils ont également été récompensés professionnellement en accédant à des postes à responsabilité un peu partout dans les médias, sachant que plus tard, ils se sont également rachetés une crédibilité féministe, ce qui a quand même été la cerise sur le gâteau pour nous. Donc je pense qu'il est extrêmement urgent en France, c'est déjà le cas aux États-Unis, mais voilà, de s'interroger sur la culture de la masculinité toxique et du boys club, donc des groupes d'hommes entre eux, qui créent vraiment l'illusion d'un sentiment d'impunité. On a vu qu'en marge de la Ligue du LOL, il y a eu des messageries privées dans d'autres journaux, au Huffington Post et chez Vice, pour dénigrer précisément des collègues femmes.
Et à l'école de journalisme de Sciences Po Grenoble et école de journalisme de Grenoble que moi j'avais faite par ailleurs, donc même chez les tout jeunes, ils sont déjà en train de faire ça, quoi.
Et donc au Huffington Post, on sait désormais que la quasi-totalité des journalistes masculins faisaient partie de ce groupe baptisé Radio Bière Foot, qui avait des échanges, donc je cite, pute, il n'y a pas un emoji pute. Mais également chez Vice, gros topo, sale pute, ça sent le roussi, genre les tromblons vont en plus devenir des Amazones. Voilà, je sais pas si vous voulez réagir sur la dimension masculiniste.
Moi, juste sur le côté reprocher à une femme ou balancer les rumeurs de elle a couché pour réussir.
Ouais, donc le slut shaming.
L'ironie du sort, c'est quand même que parmi ces mecs-là, il y en a beaucoup qui se targuaient de faire monter hiérarchiquement des femmes parce qu'elles avaient couché avec eux.
Bien sûr.
Ou l'inverse, en disant, elle, de toute façon, jamais elle bossera dans la rédac parce qu'elle a refusé de me sucer. Enfin, il y a quand même des choses là qu'on a lues, entendues ou qu'on sait. Donc c'est quand même l'ironie du sort de vouloir te slut-shamer.
Et puis on peut rappeler ce qui s'est passé avec Capucine Pure.
Donc la blogueuse beauté.
Quand elle a eu le malheur d'avoir une relation sexuelle avec un mec de la Ligue du LOL, Renaud Claude Aledo, qui lui a ensuite fait croire qu'il était positif au VIH.
Ouais.
Pour la faire flipper et pour lui la harceler ensuite, quoi.
Et alors, visiblement, c'est pas la seule victime, parce que quelqu'un lui a dit « Ah, toi aussi, t'as fait croire ça. »
On a aussi lu dans Numérama que ces personnes masculines donc, faisaient circuler des photos de filles endormies, ou en tout cas de filles sans avoir recueilli leur consentement, ce qui, pour moi, est une forme de harcèlement sexuel. Donc, je ne sais pas si ça va prendre des formes légales ou juridiques, tout ça, mais en tout cas... Ça aussi, bah,
si quelqu'un
c'est très
déterre les photos de soirée à l'autobus de l'époque, je pense que ça ferait grand cas. Parce que les photos de filles saoules qu'on prend en photo avec la culotte relevée, ça pose quand même question.
Ouais, et là, on tombe vraiment dans le scandale sexuel, pour le coup. Donc on va voir vers quoi on se dirige. Ces jours prochains.
Bah pour revenir sur les mécaniques de groupes d'hommes dans des sphères professionnelles comme la rédaction des journaux, par exemple, pour parler de ce que je connais, c'est toujours cette angoisse. Enfin, moi, je l'ai toujours dans les rédacs que j'ai fréquentés, l'angoisse de pas savoir ce qu'on dit sur moi, parce que j'ai déjà eu une red chef, une femme, mais il y avait un red chef adjoint qui était un homme.
Bah oui. Pour vérifier.
Bah oui, tu vois. Mais quelle que soit l'ambiance au boulot, même si tu penses que c'est bienveillant ou que tu te dis ça ne peut pas ne pas l'être, tu sais que les hommes, quand ils se voient entre eux, tu sais qu'ils parlent de toi, tu sais pas comment ils parlent de toi, tu sais. En fait, tu te dis si je vais boire un coup avec eux, je vais entendre sûrement des horreurs sur mes collègues, mais en même temps, si je vais pas boire un coup avec eux, peut-être qu'ils penseront pas à moi pour tel sujet ou pour je sais pas tel poste.
Oui,
ou pour
c'est
tel
lose. Quoi que tu fasses, de toute façon, tu es perdante.
Est-ce que je suis censée écouter les horreurs qui déblatèrent sur des collègues féminines parce que je veux faire partie de ce club, parce que sinon je pourrais jamais. Je sais pas, évoluer dans ma carrière. Enfin, il y a toujours cette pression que tu as en tant que femme de c'est immonde, mais en même temps, si j'y participe pas. En fait, c'est ce qu'on est sur la Ligue du LOL. C'était, et ce que disait Capucine sur la Ligue du LOL aussi, c'était si t'étais pas avec eux, t'étais contre eux. Donc, moi, jamais je blâmerais toutes les meufs qui étaient dans leur cercle, qui ont couché avec, sorti avec.
Il faut dire qu'il y a aussi eu des filles dans ce groupe.
Dans le groupe lui-même, il y a eu des
filles. Qui n'ont pas été leaders de ces actions. Mais...
Après, il y a eu encore une fois tous les gens qui orbitaient autour de la Ligue du LOL, qu'on voyait en soirée. Et moi, on me dit, attends, mais cette nana-là, aujourd'hui, elle dit ça, mais elle a couché avec eux, elle sortait avec eux. Bah ouais, mais en même temps, quand t'as un groupe de dominants, t'as pas envie d'être le dominé, donc ouais, tu te ranges de leur côté pour essayer de pas tout prendre dans la gueule, quoi.
Ouais, je pense qu'il faut vraiment pas se tromper sur les gens qui ont fait du mal à l'époque. C'était certainement pas les compagnes, les petites amies, etc. C'est vraiment, il faut pas faire ça. Il faut pas recevoir ces gens. De la même manière, je regrette que les femmes qui travaillent au tac parfait soient aujourd'hui victimes d'insultes ou de harcèlement, parce que c'est pas de leur faute. Elles étaient pas là quand c'est passé. Elles ne connaissaient pas, je les crois quand elles disent qu'elles ne connaissaient pas le passé de dégonzo, donc laissons les tranquilles, quoi.
Rédac chef.
Et puis même, enfin, tu vois, moi je me dis, on est tellement nombreuses à travailler avec des gens problématiques. Non mais c'est vrai, je veux dire,
si non mais il y en a tellement partout,
il y en a partout. on l'a tous, ou on le fera peut-être toutes, malheureusement, bosser avec des gens très dont on sait qui sont très et on sait des choses, il y a des choses qu'on sait qui seront répréhensibles parce que les victimes n'en parlent pas, mais si elles en parlent, bah moi je veux bien témoigner avec elles. Mais il y a un moment où tu te dis, moi je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire, quoi. Et c'est ça, c'est le vrai problème pour moi, c'est bosser avec quelqu'un de problématique en sachant qu'il est problématique, mais toi, à ton échelle, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais?
Je veux pas démissionner. Est-ce qu'il faut renoncer à son emploi ou composer avec?
C'est ça, c'est le côté pureté militante, tu vois. Genre, je bosse pas avec un connard ou avec une sombre merde et je sais qu'il a été une sombre merde, je sais qu'il a harcelé des femmes. Enfin, on l'a vu avec plein d'affaires à la télé. On l'a vu dans l'affaire Aziza, l'affaire Monnier, des rédactions étaient au courant, plein de femmes étaient au courant, continuaient de bosser avec eux, mais je veux pas blâmer les femmes parce qu'elles veulent s'accrocher à leur emploi et on va leur dire, ah oui, mais toi tu sais. Enfin, moi, on m'a
c'est
dit,
pas
là,
aux
depuis,
femmes de se précariser.
Depuis
4
jours,
en fait.
On m'a dit, mais attends, on m'a quand même dit, mais pourquoi t'as rien fait?
Eh ben, moi, j'avais accepté avant de venir ici de parler à une seule journaliste qui avait été recommandée par quelqu'un. Et les questions qu'elle m'a posées, c'était, mais je comprends pas, mais pourquoi vous avez pas parlé? Et puis, mais en fait, pourquoi ils vous en voulaient? Parce que, enfin. Je comprends pas, qu'est-ce que vous avez fait pour déclencher ça?
Ouh là là,
ouais. Et donc j'ai dit, pardon, on va mettre fin à l'entretien, parce que ça va pas aller en fait. Vraiment, les gens sont incrédules et super bizarres.
Et alors, pour élargir un peu le propos, on l'a un petit peu dit, mais toutes ces violences-là, elles sont systémiques et elles vont bien au-delà de la Ligue du LOL. Le sexisme, le racisme, l'homophobie restent assez endémiques dans les médias, on a pu le voir. Et tu le disais, Léa, ça a des conséquences concrètes sur la représentation dans les médias. Est-ce que les sujets sur les violences faites aux femmes sont ou non diffusés?
Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont fait le lien entre la une des Inrocks sur Bertrand Cantat.
Bien sûr.
Et ce qui vient d'être révélé.
Voilà. Quelle est la représentation des femmes dans les hiérarchies? Pourquoi les inégalités salariales perdurent? En harcelant, on sait qu'on peut jouer donc sur la réputation des femmes qui vont ensuite être moins embauchées. Donc tout ça, ça a beaucoup de conséquences concrètes. Et ce système de cooptation toxique va aussi au-delà des médias et s'applique, on l'a dit, à beaucoup, beaucoup de domaines professionnels. Par ailleurs, ces derniers jours, plusieurs de ces personnes visées ont présenté leurs excuses. On peut dire qu'il y a quelques mois, Alexandre Leschnet, qui faisait partie de la Ligue du LOL, a lui fait son mea culpa sans qu'on lui demande. Ça a été le seul, je crois.
Merci Alexandre, encore une fois.
Merci Alex. Ensuite, il y a eu dans Libération, celles qui étaient des excuses assez nulles. Ensuite, certaines de ces personnes ont développé, donc comme Vincent Glade qui a dit « j'ai créé un monstre ». Je pense qu'en général, beaucoup ont plaidé la passivité, voire la complicité ou la participation passive. Moi, dans les textes que j'ai lus, j'ai trouvé le propos très égocentré, peu sincère, déresponsabilisant, et avec très souvent des justifications donc sur l'âge, la jeunesse, l'absence de gravité ou le caractère humoristique des propos. Je voulais savoir, vous, ce que vous en aviez pensé. Comment est-ce que vous avez reçu ces excuses? Comment est-ce que vous les avez analysées?
Alors, moi, j'ai reçu deux messages d'excuses et un coup de fil.
Donc, des messages personnels, pour le coup, pas ces excuses au public.
Les deux personnes qui m'ont envoyé des messages d'excuses sont deux personnes qui ne m'ont jamais rien fait.
D'accord.
Qui faisaient partie de la Ligue du LOL, et je le savais, et elle savait que je le savais. Puis, il y en a même un, on est en contact, on va boire des coups une fois par an, quoi. Eux deux ne m'avaient vraiment jamais rien fait. Et encore plus loin, c'est des gens dont je suis sûre à 99% qu'ils ne relayaient même pas les choses. Ils m'ont dit sur Twitter. Alors, ils faisaient partie de la Ligue, ils étaient complices. Et ils l'admettent dans les messages qu'ils m'ont envoyés. Et ce sont des messages que je ne rendrai pas publics parce qu'ils n'ont pas à être... dont je ne lirai même pas d'extrait. Et pour moi, ces messages sont... profondément sincère. J'ai eu un coup de fil aussi de quelqu'un avec qui je travaille qui m'a dit voilà, je suis à, qui m'a voilà, qui m'a parlé, mmh. qui m'a dit je suis à dispo si tu veux qu'on en discute. En revanche, je n'ai pas reçu le moindre message d'excuse des gens qui m'ont attaqué pendant plusieurs années, qui ont fait des photomontages de moi. Ces gens qui m'ont harcelé, qui savent qu'ils m'ont harcelé, ne m'ont pas envoyé le moindre message d'excuse. Les dégonzos, les Renault, Alex.
Alors moi j'ai eu des excuses de dégonzos.
Donc Stéphane Desaulnois du Tag Parfait.
Tardive, extrêmement tardive et extrêmement nulle, hein, on va pas se mentir. Pas à la hauteur de ce que j'attendais, on va dire. J'ai eu des excuses de Guilhem, Malissem.
De ex de Nouvelles Écoutes.
Kid, voilà. Ex Nouvelles Écoutes, qui lui m'a fait beaucoup de mal. Voilà, en ce qui concerne la Ligue du LOL. Mais ceux qui m'ont fait le plus de mal, Renaud, Claude, Aledo et Lapin Blanc, dont j'ai oublié le patronyme, mais que je peux...
Guillaume Livonzi. Donc je rappelle que quand on donne un pseudonyme, c'est le pseudonyme sur Twitter, voilà, pour les personnes qui ne sont pas sur Internet.
Les premières qui sont sorties, c'était
les premières s'auto-congratuler, c'était du talent et du fait que tout le monde était fasciné en fait, par leur talent.
La première sortie de Alexandra Hervault, c'est « Mais non, elles se sont senties harcelées, c'est pas vrai, on fait que des blagues ». Au moment où il a publié ça, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai commencé à lui envoyer des DM et je lui ai dit « Alexandre, faudrait quand même que tu
comprennes... » Des messages privés.
Des messages privés, il faudrait quand même que tu comprennes au moins une chose, le fonctionnement du harcèlement groupé. Même si t'as l'impression que t'as fait que quelques tweets, c'est groupé. Il me dit « Non, c'est pas vrai, prouve-moi que j'ai gâché la vie des gens, prouve-le-moi. »
Mais quel enfer.
Donc le déni a duré...
Donc il y a eu ce truc-là.
Il dure encore.
Après, j'ai plus reparlé avec lui. Sur les excuses, j'ai trouvé que les premières étaient nulles à chier. Après, j'ai trouvé qu'il y avait un réel progrès, mais on n'en est pas encore là où, à ce qu'on voudrait. Par contre, moi, je veux juste te dire que j'étais absente des réseaux sociaux pendant 2 jours. J'ai regardé ce qui se passait, je voulais pas cyberharceler et participer à ça. Donc j'ai attendu, et il y en a 8 qui sont venus s'excuser.
Okay.
Donc juste pour ça, je les remercie, mais en même temps, c'est aussi une preuve de ce qui s'est passé.
Et alors l'auteur Mathias Jambon-Puyer a lui écrit un texte sur Medium dans lequel il dit « La force est la seule chose qui rentre dans leur référentiel de compréhension du monde », donc à propos de la Ligue du LOL, et c'est à ce titre qu'il faut par la force les punir, leurs excuses ne valent rien. Voilà, donc ça c'est son avis. Moi je voulais rappeler quand même que depuis le mouvement MeToo, on n'a fait que répéter et apprendre comment formuler des excuses. Donc on peut dire qu'il ne faut pas se justifier, qu'il faut écouter la parole des femmes sans la remettre en cause.
Je te crois.
Dire qu'on les croit. Ne pas critiquer ce qu'elles auraient dû ou ne pas dû faire. Je voulais aussi rappeler que pour les victimes, il existe des ressources légales, même si elles ne fonctionnent pas toujours. Mais il y a notamment le collectif féministe contre le cyberharcèlement. Il y a un numéro vert national, le 0800 200 000. Et la Fondation des femmes a lancé ces jours-ci un fonds d'urgence dédié aux victimes du cyberharcèlement de la Ligue du LOL. Donc n'hésitez pas à les financer, ça nous aidera juridiquement.
Et je voudrais juste ajouter qu'ils ont eu 10 ans pour s'excuser. On l'a pas dit, 10 ans. Ils ont eu 10 ans, ça fait 2 ans et quelques qu'ils savent qu'ils ont ils ont chaud au cul, parce qu'ils savent que ça fait 2 ans, ça faisait 2 ans que des enquêtes commençaient à se lancer sur eux. Ils étaient au courant tout de suite, dès qu'un truc s'est lancé sur eux, ils ont été au courant, donc ils savaient très bien, mais ils pensaient que ça ne sortirait jamais, comme beaucoup de harceleurs. 10 ans pour s'excuser.
Et alors moi je veux dire un truc, tu veux t'excuser, c'est très facile, toi qui m'as harcelé pendant des années, tu vas donner 10% de ton salaire à Gras Politique. Pendant 10 ans. Là,
donc, Gras Politique, c'est ton collectif.
C'est mon collectif de féministes contre la grossophobie. Tu vas donner 10% de ton salaire à la lutte contre le cyberharcèlement. Tu vas donner 10% de ton salaire tous les mois à des assos féministes. Là, peut-être, je vais considérer tes excuses. Sinon, vraiment, ça ne m'intéresse pas.
Et alors, justement, du côté des préconisations, tu l'as dit, on peut rétribuer les victimes, les compenser, être proactif dans le recrutement et le management. On peut organiser des ateliers obligatoires, faire des formations, expliquer les conséquences juridiques très graves. Les RH, coucou, n'oubliez pas de réagir. On peut engager des référents sur ces questions. Surtout, il faut absolument sanctionner ces comportements au lieu de les tolérer et surtout de les encourager. Donc voilà, balayez devant votre porte. Je ne sais pas si vous avez d'autres suggestions à part celle-là.
Moi, je voulais juste rajouter un point d'actualité. Il se trouve que c'est arrivé aux oreilles de Jack Dorsey, qui est le patron de Twitter aux États-Unis. Ouais, j'ai fait une petite interview sur CNN hier et toi, tu étais sur BBC, je crois. Donc voilà, et il est en train de réfléchir à améliorer la lutte contre le cyberharcèlement. Alors, on pense.
Et donc, l'association Prenons la Une a aussi demandé à ce que les cas de cyberharcèlement puissent entraîner des arrêts maladie.
C'est ça.
En gros, l'idée, apprenons la une, c'est ce qu'on avait demandé dans la tribune l'an dernier, c'est de dire que le cyberharcèlement doit être reconnu comme un accident du travail. Alors, il ne faut pas le prendre au sens littéral, mais c'est l'idée de se dire, quand mon salarié subit ça, ok, je prends soin de lui, je fais attention à lui. S'il a besoin de prendre sa journée, il prend sa journée, on s'arrangera après. Je ne rajoute pas de pression sur est-ce que tu as rendu ton papier à l'heure ou je ne sais pas quoi. En fait, c'est qu'on considère que c'est une victime dans une situation difficile, comme on le ferait avec quelqu'un qui s'est pété la jambe, et on fera attention à son quotidien.
Et si tu me permets, je voudrais juste en placer une pour Mégane Kamel, qui a été harcelée par toute la communauté de Marceau, dessinateur d'extrême droite. Il y a eu son procès il n'y a pas très longtemps, elle a gagné, et pourtant elle subit encore le cyberharcèlement aujourd'hui, car Marceau a relancé ses troupes sur sa tronche. Il y a une cagnotte qui tourne, il y a une tribune dans Libération qui est sortie. Donc, n'hésitez pas à la soutenir, elle s'appelle Mégane et elle mérite votre soutien.
Et juste sur les préconisations, notamment au sein, alors moi je parle de mon métier, journaliste, mais au sein de partout, de toutes les boîtes du monde, de toutes les industries, ben, comme on disait tout à l'heure, croyez, comme disait Léa, croyez les victimes. C'est-à-dire que quand vous commencez à vouloir recruter quelqu'un et que vous entendez 15 fois la même histoire sur lui, ben, peut-être que c'est parce que c'est vrai.
Ou donner une promotion, ça fonctionne également.
Peut-être écouter les gens, peut-être aller fouiller, aller creuser. Alors je ne dis pas que la rumeur a raison, ça ne voudrait rien dire, mais...
Et surtout de ne pas dire aux gens « Ah, débrouillez-vous entre vous, ça ne nous regarde pas, réglez vos affaires. »
Ou alors dire « Oh là là, mais attends, ça c'est des rumeurs, on ne sait pas. »
Ah, puis c'est vieux.
Oh, puis c'est vieux, et puis alors elle, peut-être qu'elle raconte ça parce qu'elle a un truc, parce qu'il n'a pas voulu d'elle, ou enfin toujours le même truc sur les femmes. Mais en tout cas, voilà, quand vous êtes chef, que vous avez un haut poste hiérarchique, et que vous voulez recruter quelqu'un, promouvoir quelqu'un, et que vous entendez des choses dessus, ben, peut-être creuser au lieu de faire la sourde oreille et de se dire que de toute façon, ça ne sortira pas, et de croire que ça ne fait de mal à personne, peut-être embaucher des gens bien à la place.
Merci beaucoup à toutes les trois. J'imagine que c'était pas facile de venir aujourd'hui, et c'était pas facile non plus pour moi de parler de tout ça. Donc je vous remercie. Et nous, on se retrouve dimanche avec un épisode court. Merci. Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes animée par Clémentine Gallo avec
Daria Marx, Nora Boisouni,
Léa Lejeune.
À la réalisation sonore, Aurore Meilleur-Mailleux. À la prise de son, au montage et mixage, Charles de Cilia. Coordination, Laura Cuissard.